Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Aux femmes, engagement, citoyenneté, éducation, jeunesse, la place de la jeunesse et des familles, on en parle. De mettre des mots pour justement que plus jamais il y ait des femmes qui soient victimes, il faut aussi que nos jeunes soient là dans les échanges pour que les process et les façons de faire changent. Alors je vous demande de lever la main si vous êtes OK avec le fait que Sandrine peut rester encore un peu avec nous dans le panel. Ou est-ce qu'on la vire? Parce qu'en fait, ça va se passer comme ça tout de suite. Ah ouais. Ça veut dire, en fait, ici, dès ta présentation, si le panel a décidé, tu bouges. Allez, tu bouges. Alors, merci. Bienvenue à toi, Sandrine. Merci de m'avoir fait confiance. On va passer à Nastéo. Est-ce que tu vas bien?
Très bien, très bien. Merci pour l'invitation, Ami. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nastéo. J'ai 36 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 8 et 3 ans maintenant. Dans la vie, je suis professionnelle de la cybersécurité. J'ai aussi fait de mon métier un engagement. C'est ce qui fait aujourd'hui l'animation qu'on a proposée dans le village numérique, par exemple. Sinon, dans l'aspect engagement, plusieurs casquettes qui vont de l'aide à l'organisation de lutte pour que nous, comité, finalement, dans nos différentes démarches de société, on puisse s'acquérir des bons outils. Et donc, bien sûr, de pouvoir mettre ces outils à portée de main de la jeunesse et de la famille, hein, que ça soit une lutte à la fois pour quelque chose d'intrafamilial ou de sociétal, donc bon, vraiment sur la justice sociale. Et l'éventail va jusqu'à tout ce qui est organisation, tout ce qui est fracture numérique, tout ce qui est protection autour de ces aspects-là. Et enfin, tout simplement, l'association Carré Citoyen, c'est 4 faces. Et donc, toutes nos actions se résument sur ces 4 faces-là. Comment s'organiser, se former, s'informer pour résister et préparer l'avenir. Et dans ce carré-là, on y place le citoyen et on l'aide à rebondir sur tous les aspects de sa vie, qu'à la fois la parentalité, l'employabilité, la formation, parce qu'en fait, l'égalité des chances, finalement, eh ben, c'est à nous de la construire pour nous-mêmes et par nous-mêmes.
On est d'accord avec ça, on peut l'applaudir quand même. Hein. Même question pour Nastéo, hein, y a pas de favoritisme ici. Est-ce que tout le monde est OK pour dire que Nastéo peut encore rester dans le panel? Ouais, ouais, à main levée. Ouais, ça a l'air bon, Nastéo, c'est bon. Et ben du coup, là, ça met beaucoup, beaucoup de pression aux derniers membres de ce panel féminin, mais il y a aussi des hommes ici, hein. Ils vont venir nous rejoindre après. Ophélie, comment tu vas?
Je vais très bien et je suis très contente d'être là. Il y a une très belle énergie.
Merci Ophélie. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, je suis membre d'une association qui s'appelle le Collectif des directeurs jeunesse d'Île-de-France. Je suis également professionnelle auprès de la jeunesse et surtout passionnée d'éducation. J'ai eu différents postes auprès des enfants ou encore du public jeunesse. Voilà, je travaille dans le milieu depuis plusieurs années et je suis également maman.
Combien d'enfants?
J'ai un enfant.
Ok.
Pardon. Un grand enfant de 18 ans. Donc voilà, grand enfant.
Un adulte. Ouais. On peut applaudir ça. Est-ce qu'on est OK pour se dire que, bah, du coup, on est là, on a dit qu'on voulait aussi intégrer la jeunesse, l'enfance dans nos débats. Le fait d'avoir quelqu'un qui œuvre au quotidien dans un collectif de directeurs jeunesse pour justement faire changer les pratiques, ça fait sens? Qui vote pour qu'Ophélie reste encore un peu avec nous? Ouais, OK, on est OK. Allez, les jeunes, ils ont levé la main et tout. Alors, merci. À mon tour, hein, quand même, parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. On sait que Aminata est associée à SoParc ou au salon SoFamily. Mais Aminata, c'est aussi une maman. Maman de 3 enfants, donc qui ont 13, bientôt 15 et 17 ans. Éducatrice spécialisée de formation. Après, je l'ai dit, j'ai travaillé aussi dans l'animation. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte avec l'association SoParc et prochainement, en cours en tout cas, la SASU. parce qu'il faut aussi se structurer. Et l'idée avec tout à l'heure le panel Ouri, Fatou et tout, on va parler aussi d'empowerment, d'entrepreneuriat, etc. Comment aussi structurer nos idées pour pouvoir justement apporter et faire sens. Donc voilà. Ça, c'est Aminata. Est-ce que... Donc, du coup, je suis sur quatre axes, hein, parentalité, éducation, insertion et citoyenneté. Est-ce que dans le panel, il y a quelqu'un qui voudrait que je bouge maintenant ou est-ce qu'il y a moyen que je reste encore assise?
Reste avec nous.
Parce que j'aimerais bien aller faire un tour dehors, j'ai un peu chaud. Vous voulez pas me virer, non? Non? Bon, bah, va falloir faire le taf. Alors, du coup, les questions sont ouvertes. Et à la différence d'habitude, c'est d'abord nous qu'allons faire... preuve d'un point d'expertise et ensuite il va y avoir un aller-retour. Là, j'aimerais que ça soit l'inverse. Quelles sont les questions qui vous viennent en tête, que vous voulez poser au panel? Et à la fin, le panel fera peut-être un point d'expertise en fonction de tout ce qu'elle a entendu et d'apporter une réponse cohérente pour que tout le monde reparte grandi. Donc, place aux questions. Qui dans la salle souhaite tout de suite mettre les pieds dans le plat ou y aller en douceur? Mais on a compris, violence faite aux femmes, engagement, citoyenneté, éducation, jeunesse, la place de la jeunesse et des familles, on en parle. Qui se lance? Qui a envie de poser une première question au panel? Qui a envie de bousculer? Qui a envie de renverser la table? Oudé, c'est parti. Bonjour Oudé. Alors c'est sympa si vous levez et que vous donnez vos prénoms comme ça tout à l'heure quand on dit « Ah, c'était trop bien votre intervention, madame Oudé. »
Une question. D'après vous, experts, comment va la jeunesse?
Waouh, Félix, ça commence mal.
C'est parti.
On tape dans le dur. Allez, Ophélie, c'est parti. Est-ce que tu... Après, évidemment, vous pouvez compléter et dans la salle aussi. Hein. Ophélie?
Eh bien, question complexe. Globalement, j'ai envie de dire bien. Peut-être même super, parce que c'est un âge extraordinaire. Parce que je vois tous les jours des jeunes qui relèvent des défis, qui ont des projets, qui sont engagés, qui vivent de beaux moments, d'amitié, qui font des projets collectifs également. Donc j'ai envie de dire globalement bien. Voilà, je suis éblouie, moi, par l'énergie qu'ont les jeunes également. Maintenant, effectivement, il y a des enjeux de société autour de la santé mentale, autour de l'orientation, la reconnaissance de la diversité des parcours, autour de, du relationnel entre les jeunes et les institutions, entre justement jeunes parfois de territoires différents. Voilà, et puis aussi, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on est traversés dans la vie par des épreuves, des obstacles, etc. Donc voilà, il y a des défis à relever pour les jeunes, par les jeunes, mais pour moi, les jeunes vont bien.
Merci Ophélie. Est-ce que, alors, il y a quelqu'un dans la salle qui veut déjà prendre la parole, donc en fait, on va faire... interaction tout de suite pour qu'on ne perde pas le fil. Est-ce que le micro peut circuler? On va t'entendre et le temps que le micro arrive à toi, est-ce que les filles, vous avez envie de compléter et de donner votre avis, votre point de vue sur la question? Alors, c'est qu'un point de vue, ça n'engage que nous. Mais est-ce que vous voulez prendre la parole, Sandrine, Nastéo?
Alors, effectivement, la jeunesse, il y a cette passion, ce côté débordant d'énergie, etc. Je pense qu'on est dans une société où tout va très vite, où c'est peut-être plus compliqué. Moi, je vois, bon, alors, je suis une ancienne, hein, je vais avoir 50 ans, donc pour certains, je suis très vieille. Mais voilà, quand j'étais adolescente et aujourd'hui, je trouve que c'est pas si simple que ça. Les réseaux sociaux, alors utiliser à bon escient, c'est quelque chose de fabuleux, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficiles avec le cyberharcèlement. Les choses, ça va tellement vite, donc ça peut abîmer quand même pas mal de jeunes. Il y a des problématiques de RICS. Moi, je suis franchement une maman très angoissée. Ne serait-ce que ce soir, il y a un match. Moi, je sais que mon fils est parti voir, il va partir voir le match avec des copains. Il a 20 ans. Je lui ai quand même envoyé un petit message. Tu vas pas sur Paris après. C'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Là, on est en train de voir qu'à Paris, ça se barricade, les commerces, etc. Donc après, moi, c'est peut-être mon côté anxieuse. Mais ouais, c'est pas simple et je suis également bénévole engagée dans l'association Imani qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui agit pour l'égalité des chances. Et on intervient justement dans les collèges, notamment au niveau des quatrièmes, parce qu'on a été formé à la fresque du sexisme junior, et on a un spectacle qui s'appelle Universel, qui est un très très bon outil de sensibilisation aux divers sortes de violences, que ce soit la violence conjugale, que ce soit le harcèlement de rue, que ce soit le cyberharcèlement, etc. Et en fait, on se rend compte que, pourtant c'est des quatrièmes, il y a déjà une construction, il y a déjà énormément de choses à déconstruire. On voit les inégalités, on voit aussi le poids qui pèse sur les jeunes filles. Donc, voilà, leur dire aussi que elles ont droit, comme tout à chacun, de l'éducation, d'avoir des rêves, et que surtout, mesdemoiselles, enfin, tout vous est ouvert, tout vous est possible. Et j'ai envie de vous dire, n'attendez pas l'autorisation, allez la chercher. Allez la chercher.
Merci Sandrine. Avant de donner la voix à Anastéo pour que ça soit vraiment équilibré entre la salle et le panel, moi je me dis, une fois de plus, on pose une question sur la jeunesse. Donc Oudé a demandé, d'après vous, comment va la jeunesse, et on a la jeunesse parmi nous. Et du coup, comment parler de ceux qui sont dans la pièce sans se retourner vers eux et les questionner? Ma question, c'est, vous, jeunesse, comment vous allez? Vous, les jeunes qui êtes dans la place, dans la pièce, comment vous vous sentez?
Bonjour, je m'appelle Yacine.
Est-ce qu'à chaque fois, vous voulez bien nous dire votre âge? Parce que moi, je me sens jeune, mais bon, en vrai, j'ai 41 ans.
Oui, j'allais y venir, mais vous m'avez coupé la parole. 23 ans.
Voilà pourquoi la jeunesse est bien, parce qu'elle tacle. Merci. Vas-y.
Je pense que vous pouvez répondre à la question qu'a posée Oudé, mais que vous êtes mal placé pour y répondre. Et du coup, nous qui le vivons, on est plus aptes en fait à vous donner notre réponse. Comment?
Ouais, j'adore ça. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut justement que vous nous fassiez suer. Déjà, j'avais déjà chaud, mais là, tu vois. Et on veut justement que tu nous prouves qu'on est légitime, alors tacle-nous fort. Dis-nous.
Merci à la parentalité de nous donner notre parole. Du coup, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué, exactement. Comme vous l'avez dit, on passe par des étapes qui nécessitent un accompagnement en vrai. Peu importe l'âge qu'on a. Moi, j'ai 23 ans, mais je nécessite qu'encore. Les plus jeunes que moi, c'est pareil. Dans tous les domaines, c'est compliqué. Vous parlez du match. Ma mère aussi m'a déconseillé d'aller au match. Mais de moi-même, en fait, avec ma maturité, je me suis dit, pourquoi aller jusqu'à Paris? En fait, le seul but là-bas ce soir, c'est de casser des choses. Que Paris gagne, que Paris perde, ça va être le même résultat à Paris. C'est des dangers. C'est pas fréquentable ce soir. Et donc, voilà, autant conseiller. Vous pouvez conseiller, mais est-ce qu'on va bien? En vrai, c'est une question, comme vous avez dit, complexe. Mais il y a beaucoup de choses qui... En fait, on vous montre. Si Paris va être cassé, brûlé ce soir, c'est peut-être une réponse, en fait, face à cette inaction de la part de, je vais dire, la France, pour eux. Je pense que c'est trop faible. On a des associations avec nous. Je fais partie d'une association, La Relève, à Roissy-en-Brie.
Tu peux nous dire un peu, c'est quoi La Relève? Dis-nous, on est
La Relève. Comme son nom l'indique, on prend le relais en fait pour les jeunes, plus jeunes que nous. On propose des actions, on est comme une sorte de guide en fait pour eux, et on leur propose une alternative à la galère. Il y en a qui traînent, il y en a qui réussissent, et nous on veut que tout le monde réussisse.
C'est pas Bravo Yacine, on peut applaudir Yacine. On peut aussi remercier Yacine, parce que justement, c'est pour ça que certains ont peur de vous avoir parmi nous, parce que vous parlez franc, vous dites la vérité, et vous dites ce qui vous concerne, ce que vous connaissez. Et dans ce que tu as dit, j'ai juste envie de relever une petite chose, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que c'est important de vous écouter, c'est qu'entre 18 et 25 ans, il y a des choses, mais on a du mal à vous toucher. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à vous proposer, on a envie de vous accompagner, mais on a du mal à vous captiver. On semble inintéressant. Et ensuite, entre 25 et 30 ans, c'est comme si, alors là, allez, dans le grand bain, il n'y a plus grand-chose qui est proposé, etc. Alors qu'on a de plus en plus de jeunes entre 18 et 30 ans qui ne sont pas insérés, qui ont des problématiques, même financières, de violence, etc. Et du coup, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Moi, j'ai envie de te poser une question avant de passer le relais à un autre jeune. Qu'est-ce qui, pour toi, serait pertinent comme approche
ou comme proposition des adultes qu'on est pour justement mieux vous accompagner, mieux vous guider, parce que c'est aussi notre rôle. On est plus jeune, mais par contre, en tant que parent, notre rôle, c'est de vous accompagner, de vous faire confiance, de vous faire grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement ?
En fait, à chaque étape, moi, je ne me trouvais pas assez préparé. Et les jeunes qui vont grandir, ils n'ont pas été préparés en fait, à vivre dans leur ère. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent des mauvais tournants. Et peu importe l'âge, en fait, comme vous avez dit, même si c'est à 25 ans que tu as le déclic, si tu es préparé, c'est parti. Donc, est-ce que vous pouvez proposer ? C'est ça la question ?
Une piste, une solution pour justement nous aiguiller, que ce soit en tant que parent ou en tant que professionnel. C'est-à-dire, comment on fait quand on a un jeune qui a entre 15 et 30 ans à la maison et qu'il est perdu, qu'il ne trouve rien, et nous aussi, on est désorientés. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me proposerais ? Je suis ta mère, je te dis, écoute, je ne sais pas comment t'aider. Qu'est-ce que tu me dirais ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Ou qu'est-ce que je pourrais faire ?
En fait, les parents, vous êtes notre exemple. Moi, mon père, c'est mon exemple. Donc, je vais lui demander comment lui, il a fait. Il va me dire qu'aujourd'hui, ça a changé, en fait. C'est pas la même chose. Mais il va me conseiller, en fait, sur des endroits à fréquenter. Il me dit beaucoup de me cultiver, de m'enrichir intellectuellement et d'aller, en fait, d'y aller. Faut y aller. Si tu veux de l'argent, tu vas travailler. Si tu veux un diplôme, tu vas faire tes études. Et tu choisis ta voie, en fait. Et en fait, en le laissant choisir sa voie, lui, il va kiffer. S'il va kiffer, il va y aller pour de vrai.
Une de tes solutions, ce serait, si on entend bien, de vous faire confiance et de vous accompagner à choisir vos voies pour que vous puissiez être justement dans ce kiff et dans ce truc de se dire on y va, on est préparé, on va vers ce qu'on aime.
En fait, l'écoute, elle doit être des deux côtés. On doit écouter nos parents, mais nos parents doivent nous écouter aussi pour mieux nous comprendre et mieux comprendre là où on veut aller. Et j'allais dire quoi ?
Mais c'est pas mal déjà. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir quand même ça ? Nastéo, j'ai entendu nous préparer dans ton carré. Tu as dit préparer, former, etc. Peut-être que, Nastéo, tu peux rebondir sur ça. Et ensuite, peut-être qu'un deuxième jeune peut nous dire comment lui il va et la problématique que lui il relève.
Yes, merci beaucoup. La question, elle est importante, mais je suis contente de passer après Yacine parce que je serais passée juste avant toi. J'aurais dit, c'est un peu comme dans toutes nos luttes, laissons les premiers concernés répondre. Et j'allais dire finalement que nous, en tant que, pas jeunes, parce que j'avoue, 36 ans, moi, dans ma tête, j'en ai encore 18, donc je prends la vie par cette perception-là aussi. Mais la première chose que nous devons faire, c'est apprendre en fait à leur demander comment ils vont et en fait apprendre à écouter leurs réponses de telle sorte à préparer la suite. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis très contente de parler après toi, puisque cette lucidité que tu as aujourd'hui, c'est celle que nous devons transmettre et construire. Parce que pour moi, quand on demande comment va la jeunesse, mais d'abord de quelle jeunesse on parle ? Celle qui démarre avec un capital social et économique ou celle qui doit le construire ? Donc déjà, à quelle jeunesse on pose la question ? Ensuite, si nous prenons notre prisme, celle des minorisés racisés, donc qui ont à construire leur capital social et économique, dans ce cas-là, en fait, on doit leur apprendre les mêmes outillages. Comment se mettre en réseau ? Comment apprendre à récupérer des espaces, à s'y sentir en sécurité ? Et ensuite, à pouvoir y construire ce qu'ils ont à construire. Et ça, pour moi, ça passe par quatre étapes phares. D'abord, c'est comment on transmet. Alors, quelles sont, nous, les archives qu'on a ? Par quelle étape on est passé ? Et quelles solutions on a trouvées pour nous-mêmes ? C'est là où on devient un exemple pour la jeunesse, pour leur montrer qu'en fait, le défi qui est le sien, c'est aussi le mien aujourd'hui. Parce qu'on est, en fait, sur une telle fascisation de la société que ce qu'ils pensent voir à 22 ans, je le vis à 36 ans. Quels que soient les espaces, que ce soit au travail, dans la rue ou ailleurs. La seule, j'ai envie de dire, avantage que j'ai aujourd'hui, c'est le fait d'être une femme et d'être un peu moins incriminée par une institution policière face à un jeune homme comme Yacine, à la limite. Sinon, tout le reste, c'est les mêmes discriminations d'accès au travail, c'est les mêmes discriminations d'accès à la formation et c'est les mêmes méconnaissances de tout l'outillage qui nous est disponible en réalité. Donc c'est tout ça qu'on doit construire et c'est comme ça qu'en fait, dans Carré Citoyen, on apporte l'information de telle sorte à ce que on construise notre capital social et économique. Et ça passe, par exemple, nous, offrir des stages de cybersécurité aux secondes et aux troisièmes, de telle sorte à ce qu'en fait, ils aient déjà les connaissances de l'outillage informatique et que Parcoursup, parce que ça les attend juste après. Dans Parcoursup, on donne des recommandations pour un peu tordre l'algorithme, pour qu'ils aient une recommandation des métiers un peu comme ça, de niche, de telle sorte à se dire, OK, ben en fait, même s'ils viennent de Seine-Saint-Denis, ils ne sont pas assignés à résidence en Seine-Saint-Denis, ils ont aussi cette ouverture à la fois sur des découvertes de métiers, c'est des découvertes de posture, parce que ce qu'on fait aussi, c'est l'art oratoire, c'est comment faire en sorte qu'à une jeunesse à qui on demande comment ça va, elle trouve les mots pour y répondre. Parce qu'en fait, avoir les bons mots pour pouvoir exprimer soit un mal-être, soit un bien-être, hein. De toute façon, on n'est pas obligé d'être que sur un scope binaire, hein. On peut aussi exprimer qu'on se sent un coup bien, un coup pas bien, eh bien, il faut avoir les mots, parce qu'en fait, le langage permet aussi de structurer l'esprit et de permettre de communiquer, interagir avec la société. Pourquoi pendant longtemps on a été mis au banc de la société, entre guillemets, parce qu'on considérait que si on a un accent à couper au couteau, qu'on est étranger ou autre, on rentrait dans une case pas considérée ou peu intéressant. Et bien en fait non, c'est aussi tout ça en fait, c'est toutes ces barrières-là qu'il faut lever de telle sorte à ce que quand on va demander à Yacine, Yacine comment ça va, et s'il te manque un truc, tu sais où venir.
Ouais. On peut applaudir ça. Je retourne la question à la jeunesse, mais différemment, parce que là, je vais passer par le biais d'un parent. On a posé la question à un jeune qui nous a répondu, merci Yacine. Et maintenant, vous parents, comment vous pensez que va notre jeunesse? Et quand je dis notre, je vais réduire le prisme. Comment pensez-vous que va votre enfant? Comment va votre jeune à vous? Est-ce qu'il y a un parent qui se lance? Ah, question plus difficile, les jeunes, ils sont plus réactifs, bien. Est-ce qu'il y a un parent qui a un jeune et qui peut répondre à cette question, en tout cas, de comment, selon lui, va son enfant? Il n'y en a pas? C'est... Je vais devoir faire la gamine, je vais désigner. Allez, Anne.
Bah, bonjour à tous.
Bonjour.
Pour répondre à ta question, moi, je pense que les enfants, ils ont des problèmes d'adultes aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ils sont obligés d'encaisser ce que nous, on arrive plus ou moins à encaisser avec notre maturité, notre expérience. Et eux, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que même on dit que post-Covid, y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé mentale chez les jeunes. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai 3 filles et c'est vrai que je trouve qu'elles se prennent beaucoup la tête avec leurs résultats scolaires et l'école. C'est-à-dire que nous, c'est vrai que nous, on est de génération où on nous disait « faut aller à l'école, faut bien travailler, faut avoir le bac, faut avoir une bonne situation ». Ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense que l'école, dans un premier temps, c'est un lieu, un espace qui nous permet de nous construire, qui nous permet de créer du lien, avant tout, pour moi, avant tout, et de s'instruire, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a une telle pression au niveau de l'instruction, de l'éducation nationale, et du coup, on voit ça dans Exactement. Le comportement de nos enfants. Donc voilà, moi, un Exactement. Peu mon regard sur ça.
Merci, Anne, la voix d'un père, finalement. On peut applaudir Anne. Yasmine, oups, comment tu vas? Est-ce qu'on peut pas... Yasmine, est-ce que tu peux lever la main? Yasmine, comment tu vas?
Ça va.
Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu te sens, toi, en tant que jeune, et qu'est-ce que tu observes autour de toi des jeunes qui t'entourent? Est-ce que, rapidement, tu peux nous dire quel est ton ressenti?
Moi, je dirais que ça va mieux, parce que je commence à trouver ma voie. Mais c'est vrai que ça a été un parcours assez compliqué. Moi, mon père, les études, ce qui est normal, puisqu'il espère le meilleur pour ses enfants. Mais c'est vrai que du coup, on se lance dans des études un peu la tête baissée. On ne sait pas où est-ce qu'on va au début. On tâtonne. Moi, j'ai commencé, je voulais faire de la médecine. J'ai fini en licence de droit. J'ai eu ma licence de droit.
Ouais, bravo.
Mais du coup, c'était pas ça. C'était pas ça. Je voulais pas aller là-dedans. Je me suis dit, OK, j'ai appris énormément de choses. Il faut savoir que moi, je suis allée à Assas. Donc, c'est connu pour être plutôt facho.
Complètement.
Mais du coup, ça fait plaisir de... Je ne vais pas dire représenter la minorité, parce que je ne suis pas censée être la représentante de qui que ce soit.
Exactement.
Mais par contre, de se dire qu'on arrive à ces niveaux-là et que ça se fait de plus en plus, ça fait énormément de bien. De se dire que, OK, on peut le faire, de briser ces plafonds de verre et de pouvoir dire aux plus jeunes, parce que bon, je suis jeune, hein, mais j'ai 25 ans, et je veux dire qu'il y en a qui ont 18, 15, 14, de pouvoir leur dire que oui, on peut atteindre ces niveaux-là, ces strates-là, même si c'est difficile, même si on peut ressentir du rejet aussi. quand on est trois dans l'amphi à être de couleur et une voilée, on la connaissait tous, la voilée de l'amphithéâtre, quoi. Donc, mais de se dire que voilà, on peut atteindre ces échelles-là et qu'il faut juste s'ouvrir les portes. Et si on ne nous les ouvre pas, ben, on n'a qu'à les casser, tout simplement. Ouais. Et voilà, et après ça, bah, je suis partie en communication parce que le droit, c'était pas du tout. Voilà, j'ai appris énormément de choses, mais c'était pas ma voie. Et aujourd'hui, bah, je trouve un peu plus mon chemin. Je me dis, ok, je suis bien là où je suis. Je suis entourée des gens qui me ressemblent ou pas, mais ça se passe super bien. Et voilà, donc je pense que vraiment, ce qui est important, je reviens sur ce que disait Yacine, c'est en tant que parent, bah, nous accompagner. Mais nous écouter aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de confrontations avec mon père qui ne comprenait pas où est-ce que j'allais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, tu as commencé par ça, ensuite tu es parti en droit. Mais pourquoi tu finis pas ton master ? Tu as eu la licence. Ouais, mais 2 ans, c'était 2 ans de trop. Mmh. Et quand on se sent pas bien, on s'écoute et on avance. Et de toute façon, il y aura toujours un endroit où il y aura notre place. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense.
Merci, voilà. On peut applaudir ça. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite s'exprimer, témoigner ou poser une question à un membre du panel ou une question ouverte à tous ? Je viens te voir et j'en profite pour accueillir Samira. Applaudissez Samira. Samira, est-ce que tu veux bien lever la main que tout le monde sache qui je suis en train de lancer dans la marmite ? Salut Samira. Samira, comment tu vas ? Samira, du coup, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es ?
Donc bonjour à tous, bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Samira, j'ai 3 enfants. Donc je suis maman de 2 garçons et une fille. J'ai mon aîné Ilyes qui a 26 ans, qui là est en recherche d'alternance pour un master, c'est très très difficile. J'ai Yacine qui passe en deuxième année de BTS en informatique après avoir voulu faire du droit, parce que j'ai entendu, il a voulu faire du droit, c'était toute sa vie, mais dès qu'il est rentré, ben, la première année, il a bloqué, c'était pas du tout ça, donc il s'est dirigé vers le droit. Et j'ai ma dernière, Sarah, qui est complètement différente de ses deux frères, en fait, donc qui espérait devenir infirmière, mais finalement, c'est pas ça non plus, donc voilà. Voilà mon parcours.
Super. Du coup, Samira, je te laisse poser une question ouverte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te questionne ou est-ce que tu veux témoigner ou en tout cas interpeller sur quelque chose qui, toi, en tant que parent, est un sujet ? Pour toi, par exemple, là, si je te disais, qu'est-ce qui pour toi est un sujet ? Voilà, ou est-ce qu'il y a une zone peut-être d'inconfort, de crainte par rapport à ton rôle de parent, par rapport à la société, par rapport à ce que tu observes? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête?
Bah, j'ai écouté le témoignage
de Nastéo.
Oui, donc en fait, je suis arrivée au milieu et je suis aussi inquiète par rapport à ce qui se passe. Moi, quand mes enfants sortent, je vous dis la vérité. Bon, mes garçons, parce que ma fille... elle aura beaucoup moins de soucis que mes garçons. Mais je vous dis la vérité, moi, quand ma fille sort, je lui dis, la première chose que je pose comme question, c'est t'as ta pesanteté, en voiture, retire ta casquette. Et c'est ça qui me fait peur, c'est...
Le contrôle.
Voilà, le contrôle.
Mettons les pieds dans le plat, on a peur du contrôle.
J'ai peur du contrôle. J'ai mon grand qui a eu... juste là, on est parti, il a eu son diplôme. Dans une très très bonne école, donc on était au Grand Rex la semaine dernière, donc il a eu son diplôme, etc.
Félicitations à lui, on peut l'applaudir, hein, même si c'est pas là. On peut applaudir maman aussi, parce que c'est la fierté de la maman aussi.
Voilà, donc il est à l'ESGI, donc l'école d'ingénieurs, à Paris. Et donc tout simplement, on monte dans le tram, et mon mari et moi, donc on avance, on va avant lui, et lui il est derrière, donc je m'assois tout de suite, et lui il est debout. Et donc, il y a la police de
la ferroviaire,
voilà, qui arrive.
Ferroviaire.
Et bien, il le contrôle alors qu'on part. Donc, j'ai pas compris. En fait, c'était la première fois. Enfin, il m'en parle, il est toujours contrôlé, etc. Mmh. Mais quand ça se passe.
Et que tu le vois.
Et que je le vois, je trouve que ça, c'est vraiment violent.
Exactement.
Et c'est vraiment violent parce que j'avais envie de leur poser la question, mais pourquoi, en fait, tout simplement. Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et je me suis mis à sa place et devant lui j'ai fait comme si c'était normal. Donc alors que ça ne l'est pas.
Pas du tout.
Enfin ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui justifie Qu'est-ce qui justifie ça? Et donc quand je l'ai vu contrôler, au début, je pensais juste que c'était les contrôles de passe, Navigo, de tickets. Et donc, j'ai vu contrôle et ils ont dit ouvrez votre sacoche, qu'est-ce qu'il y a dans votre sacoche? Et là, je regarde, je suis spectatrice en fait. Il ouvre, il me dit, après il me regarde, il me dit j'ai l'habitude. Et puis, l'un des trois me regarde, je lui dis oui, je suis sa maman. Et puis j'ai tourné ça à la dérision en lui disant bah, tu vois, je t'avais dit de mettre un costume. Tu vas aller te remettre ton diplôme aujourd'hui et tu as un contrôle. Et bon, ben, fallait lui montrer que c'était pas grave. Je leur disais que c'était leur boulot, que c'était ceci, mais au fond de moi, il me dit c'est pas la peine de te casser la tête, maman, j'ai l'habitude. Et je trouve qu'on ne peut pas s'habituer à ça, quoi. C'est pas possible.
Est-ce qu'on peut applaudir et remercier Samira pour ce témoignage? C'est pour ça que ça fait sens en fait d'être dans cet échange interactif, parce que vous voyez, dans le témoignage, en fait, il y a tellement de choses qui en ressortent. Tout à l'heure, Yacine a pris la parole, il a dit le match, la peur, ma mère, le message. Sandrine a dit aussi mon fils, 20 ans, la peur. Et puis juste derrière, une maman qui donne aussi un exemple où être spectateur d'un contrôle qu'on trouve injuste, ou en tout cas qui n'est pas compréhensible, en plus avec des notions où ça frôle l'interdiction. Il y a des choses, normalement, ils n'ont pas le droit. Et d'être spectateur de ça, et en fait de savoir comment trouver la juste mesure, la juste place entre son enfant, ce qu'on va lui renvoyer, est-ce qu'on attise la colère, est-ce qu'on laisse exprimer ce qu'on ressent vraiment, est-ce qu'on fait comme si c'était normal, on sait que ce n'est pas. Du coup, tu vois, tout ce que tu as dit là, je trouve que c'est intéressant parce que Quelle posture avoir en tant que parent dans un moment comme ça, où on est tiraillé entre l'envie de protéger son enfant, l'envie d'hurler, et en même temps, notre rôle. Tout à l'heure, il y a un jeune qui parlait d'exemplarité. Sandrine, tu voulais rebondir, et s'il y en a dans la salle qui veulent apporter des points d'expertise, n'hésitez pas, en tout cas du soutien ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à le faire.
Bah, en fait, moi, ça me parle parce que, alors, j'ai jamais été contrôlée de ma vie, jamais. Je suis blanche, machin, ça joue certainement beaucoup. Même des fois, quand il y a des contrôleurs, le passe, moi, je trace. On m'arrête rarement. Donc, en fait, je pourrais gruger. Mais bon, je suis une femme, blanche, ça passe bien. Mon fils, j'ai trois métis. Mon fils, il est grand, c'est un sportif. Donc, il est souvent jogging, basket, voilà, sportif. Et c'est pas forcément la même. Pourtant, il est tranquille, il fait pas de machin. Et des fois, je lui dis, ouais, tu fais attention. Des fois, il met des trucs de capuche, machin. Je dis, mets-toi correctement, parce que c'est grave, et je suis obligée de lui dire tu fais attention, parce que l'amalgame, moi je vois, je passe très souvent par Gare du Nord, mais tous ceux qui sont contrôlés sur le bas-côté, bah, ça va être rarement des blonds aux yeux bleus, on va pas se mentir. Et c'est une fois, je voyais, il y avait un jeune homme, il faisait un peu style basketteur, le mec, mais vraiment très bien sur lui, propre. Et j'étais derrière, et le mec il s'est fait alpaguer par des policiers, lorsque tu vois, il était en sport, il allait au sport, il en revenait, enfin tranquillement. Donc oui, ça c'est une réalité, donc c'est compliqué, mais même moi, toi, pour mon enfant, je suis pas toujours rassurée.
Nastéo, elle était en train de bouillir comme ça là. mais ils ont pas le droit. Nastéo, ils ont pas le droit, on l'a entendu. Est-ce que tu peux justement donner l'information de façon claire ici? Qu'est-ce qui te semble injuste, et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'avaient pas le droit de faire dans cette situation précise? Parce que du coup, des fois, le fait de connaître nos droits,
exactement,
ça peut te décontenancer.
Exactement. En fait, je pourrais tenir sur cette question de droit pendant tellement longtemps.
Non, ne le fais pas.
Je ne le ferai pas. Mais je vais répondre sur un truc. Alors, moi, j'ai un garçon, c'était le premier, et je vois par rapport à mes petits frères, j'angoissais d'être maman d'un garçon, pour être très honnête, et de me dire qu'en fait, on est tellement en mode survie, tellement en mode survie constante, parce qu'on doit avoir on a toutes nos alertes tout le temps sur un certain nombre de choses du quotidien, que en fait à un moment on se dit soit je me retrouve à transmettre ce mode survie et donc en faire des enfants qui sont en mode résistance constante, soit je vais recycler ma colère et je vais en faire quelque chose de bien. Et en fait c'est surtout ça, c'est que il y a tellement de choses dans lesquelles on est obligé de silencier pour survivre, qu'on en revient à une petite chose souvent que mes parents me disaient quand j'étais ado, parce que j'étais déjà en colère ado. Il me disait non, alors là il faudra juste te taire, si tu peux, ça peut être juste sympa, tu vas en cours, tu dis rien aujourd'hui, quand il y a une minute de silence ou des choses comme ça qui sont dénoncées, alors il faut surtout rien dire, il faut silencier nos positions, silencier nos colères, parce que sinon, comme de toute façon je suis aussi une femme noire et que l'émotion dans laquelle on m'attend c'est la colère, donc tout de suite donc je vais rentrer dans cette case là et donc ce que j'aurai à dire sera soit comment dire, soit pas pris en compte parce que de toute façon je braille, ou soit de toute façon je reste violente parce que en fait l'expression de la femme minorisée racisée est violente. On peut pas avoir une expression de notre colère autrement que cette perception là pour l'autre. Et donc c'est là où en fait il y a un vrai travail à faire sur notre jeunesse pour déjà la sortir d'un élément qui est cet élément de survie constant, comme disait votre fils, en fait, j'ai l'habitude, je les laisse fouiller, parce que de toute façon, il en va de ma vie. Et en fait, on arrive là. Je suis obligée de courber l'échine sur des choses injustes, car si je fais le contraire et si je m'exprime, il en va de ma vie. Mmh. Et on arrive à ce niveau de réflexion, et c'est là où je disais tout à l'heure, en fait, c'est à la jeunesse qu'il faut demander comment elle va, mais en fait, il faut lui donner tous les éléments de pouvoir l'exprimer. Parce qu'être spectatrice de cette scène-là, il aurait pu vous la raconter. Vous ne l'auriez pas écoutée de la même manière parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement en alerte sur tout. On veut tellement les mettre en bulle partout parce que l'État devient tellement dingue. La routine devient tellement dingue. Les transports, la rue, tout devient dingue. Tout est en roue libre d'une violence permanente qu'on en vient à se dire, vaut mieux que je fasse ce choix-là parce que sinon, il en va de ma vie. Et c'est là où ça devient dingue, en fait.
Merci, Nastéo. On peut applaudir ça. Sandrine, alors juste avant, Sandrine, est-ce que tu peux nous préparer ton ouvrage? Comme ça, je vais commencer à faire tourner le panel progressivement. Est-ce que tu peux nous présenter ton ouvrage et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver dans le stand pour ceux qui t'ont pas encore identifié?
Alors. Il est sorti, il s'appelle À eux d'avoir honte, il est sorti au mois de janvier et en fait c'est suite à mon premier livre où j'ai parlé des violences que j'ai subies moi-même et on m'avait dit, voilà, j'ai eu énormément de retours dessus et on m'a dit t'as pu raconter ton histoire parce que du coup j'en ai parlé à la télé, en radio, en podcast, etc. et je l'ai écrit et je me suis dit, suite à une séance de dédicace dans ma ville à Pantin, je me suis dit je vais donner la parole à d'autres femmes parce que je sais le bien que ça fait, même si c'est difficile d'en parler, pour pouvoir prendre le recul et surtout pouvoir se reconstruire après. Et donc je voulais libérer la parole, ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc il y a des témoignages de survivantes, mais également de professionnels, psychocriminologues, avocats, thérapeutes, associations, pour aussi avoir des tips, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette parole. Et surtout ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est casser un peu les clichés de la violence conjugale. Donc ce n'est pas que physique, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi énormément de d'autres formes de violence. Et surtout, c'est que ça touche tous les milieux sociaux, culturels, toutes les religions, que vous connaissez tous quelqu'un qui est concerné par les violences conjugales, hein, que ce soit en tant que victime, auteur ou co-victime, même si vous ne le savez pas. Et c'est pas une question d'Aminata, de Sandrine, de Madda, voilà, c'est le processus de l'emprise de la violence, le cycle de la violence. Et tout à l'heure, ça a été dit, et je suis d'accord, et d'ailleurs l'adjoint maire l'avait dit aussi, la connaissance, c'est un pouvoir. Donc, et on peut identifier que ce qu'on connaît. Donc c'est pour ça que dans ce livre, j'explique aussi... le processus de la violence, comment ça se met en boucle, etc. Qu'est-ce que ce système d'emprise? Quelles sont les répercussions? Quels sont les traumas? Et surtout, comment pouvoir sortir de tout ça? Parce qu'il y a une vie après, et la vie, elle peut être très belle. Mais il faut faire attention, certaines, malheureusement, restent enfermées à vie dedans, et malheureusement, beaucoup en perdent la vie.
Beaucoup trop.
Donc il faut faire attention, il faut savoir aussi identifier les personnes ressources pour pouvoir prendre les mains qu'on tend pour pouvoir s'en sortir, parce que seul on peut pas s'en sortir, ça c'est pas possible, ça c'est certain, mais il y a plein de personnes qui sont là pour tendre la main, mettre en relation, etc. Et il y a toujours voilà, une solution et surtout voilà, la violence, rien ne la légitimise, c'est interdit par la loi, c'est punissable par la loi et personne n'a le droit de vous maltraiter de quelque façon que ce soit.
Merci Sandrine. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort ?
Ouais, le bosser, aller beaucoup sur les réseaux. Je vais vous laisser de toute façon réseauter. Vous allez pouvoir aussi la retrouver juste devant sur les stands. Elle ne va pas nous quitter. C'est le premier siège éjectable de parentalité. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour son courage. Merci beaucoup, Sandrine. Et en fait, vous allez voir que je suis très juste parce que je vais m'auto-éjecter aussi prochainement de mon propre plateau. J'aimerais savoir si Papayo est d'accord de venir nous rejoindre. Magda, il y a une question très importante, donc je t'invite à venir rejoindre le panel parce qu'on a parlé de droit. Et Magda, du coup, tu es juriste, tu vas pouvoir te présenter et répondre à Samira et à tous les autres sur le point niveau juridique. Ne t'assois pas tout de suite parce que je vais me lever, il va y avoir du mouvement. Sur le point juridique par rapport à le contrôle dans un transport public, l'ouverture de sa coche, etc. Si tu peux nous apporter un point de précision. Ophélie,
mot de la fin.
Tu vas faire ton mot de la fin et puis on va s'auto-éjecter ensemble, bien. En famille. Et puis, Alissata du GAMS va venir aussi rejoindre ce panel avec Magda. Et j'annoncerai le troisième panéliste. Je vais venir me mettre et vivre votre expérience là-bas en tant que parent et spectateur. Et je vais me dire, quitte d'ici, ami. Ciao, merci.
Merci pour cette invitation. Pour mon mot de la fin, j'ai hâte d'entendre d'autres témoignages. Merci pour l'humilité des témoignages, l'humilité que je vais prendre pour moi aussi en tant que professionnelle jeunesse. Effectivement, j'ai répondu à la question de mon regard de professionnel et de bénévole auprès des jeunes. En tous les cas, j'ai envie de retenir quelque chose aussi de positif. Il y a des horreurs, il y a des combats à mener, mais ce que j'ai entendu, c'est des jeunes qui cheminent, qui trouvent et leur voie, des jeunes qui obtiennent des diplômes, des jeunes qui qui relèvent d'autres défis, qui sont engagés en association, des parents qui se questionnent aussi. Et ce défi de la distance entre des jeunes adolescents, des jeunes adultes, en tant que parent, comment on accompagne, on permet l'émancipation et sans finalement étouffer et être, comment on se recycle pour ne pas être dépassé par ses peurs et ses craintes. Donc voilà, merci à vous pour les témoignages et puis j'ai hâte d'en entendre d'autres.
Alissata, du coup, je t'invite à prendre place à côté de Nastéo. J'invite aussi Magda à prendre place à côté de Nastéo pour pouvoir apporter en tout premier lieu, avant de continuer, le point d'éclaircissement sur justement la partie juridique. Et je vais demander à Ori Diao aussi de venir rejoindre ce plateau, parler empowerment féminin. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On n'oublie pas, hein, chacun est libre de poser des questions, de rebondir, d'éjecter quelqu'un pour prendre sa place. Tout est permis si on est en famille. Bienvenue à ce nouveau panel. Magda, bienvenue à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Villepinte, merci pour l'accueil. Vraiment, un très beau salon. Bravo Ami, bravo Soparks pour tout le travail que tu entreprends. Vraiment, bravo, bravo, bravo.
Merci.
Et très contente du coup de prendre la parole après le panel précédent, puisqu'il y a eu de beaux échanges. On a laissé la parole à la jeunesse, des militants engagés, des femmes engagées et des femmes de terrain aussi, c'est important. Alors pour un petit point très rapide, parce que je suis juriste de formation, bon, j'exerce plus sur le côté juridique, mais j'ai encore des connaissances
après,
qui sont essentielles.
Après, je laisse Nastéo compléter, parce que du coup, tu es aussi engagée sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est juste de se dire, voilà, il y a une maman qui a témoigné.
Bien sûr.
Et il y a quelque chose qui est interdit. Est-ce que vous pouvez éclaircir
bien
ce
sûr.
Point-là?
Alors du coup, il y a un cadre. On ne peut pas contrôler, déjà dans un premier temps, qui a le droit de contrôler. Il y a aussi, il faut être assermenté. Donc, déjà tout d'abord. Donc, on ne peut pas arriver et, par exemple, un agent de sécurité ne peut pas venir vous fouiller comme cela. Enfin, voilà, il y a un cadre précis des personnes assermentées. Après, je laisserai Nastéo développer si elle le souhaite. Mais au-delà de ça, vous avez aussi le fait est qu'il faudrait, il faut en fait, en l'occurrence, avoir réellement détecté une urgence sécuritaire, en fait. Voilà. Donc, dans l'espace public, tout le monde a droit de circuler. qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, plus vieux, enfin voilà, plus jeune ou autre, il y a une liberté de circuler qui est quand même aujourd'hui défendue par la déclaration donc, voilà, du citoyen. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça va de soi, mais malheureusement aujourd'hui, comme le rappelaient les échanges lors du précédent panel, il disait justement Nastéo, il y a cette peur qui s'installe parce qu'en fait aujourd'hui, vous avez un pouvoir en fait policier, parce que c'est ça en fait, un pouvoir policier qui est en place et qui met une pression terrible parce que les familles elles-mêmes ne savent plus comment réagir. Donc en fait, on silencie, pour reprendre ce que dit Nastéo, nos colères, nos peurs, mais il y a un cadre. Et à un moment, effectivement, il faut malheureusement, même avec ce cadre, on a en tête le fait que ça peut très très vite se dégrader, très vite malheureusement, on le voit, je vais parler d'un cas qui est extrêmement connu, qui est le cas du frère d'Assa Traoré, Adama Traoré, pour ne citer que lui, il y en a tellement d'autres. Donc voilà, il y a énormément malheureusement de contrôles comme cela qui peuvent très très vite mal tourner. Donc voilà, donc pour répondre, normalement, tout le monde a le droit de circuler librement dans l'espace public, à partir du moment où il respecte bien entendu voilà, les règles de bon droit qu'on connaît tous et toutes. Et encore une fois, les personnes qui viennent contrôler, il faut au préalable avoir donc en fait une urgence sécuritaire, c'est-à-dire voilà quelque chose qui a été dénoncé, voilà et qui porte atteinte à la sécurité en fait de la population. Et au-delà de ça, il faut que les agents soient assermentés. Donc c'est-à-dire policiers, gendarmes de mémoire, les douaniers. T'en vois d'autres, Nastéo ? Les agents de sûreté, voilà, ouais. Exactement. Si vous en voyez d'autres, voilà. Mais voilà, je te laisse.
Est-ce qu'on peut remercier Magda pour ça ? Oui. En gros, par contre, Sandrine aurait dû se faire contrôler quand elle fraude dans les transports. Sandrine, elle devrait se faire contrôler. On va te dénoncer. Alissata, tu veux réagir ? Oui. Donc, je te laisse réagir. Et ensuite, Alissata, je te laisserai te présenter. Et le panel juger si tu peux rester ou si tu vas quitter d'ici. Et puis Houri en fera de même. Mais juste avant, je te laisse quelques minutes pour
présenter. Je peux réagir,
tu vois,
Ami.
Ouais, tu réagis et ouais, ensuite on t'écoute.
Bonjour à tous, merci à vous. Moi, je voulais apporter deux témoignages. Il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, donc un jour j'ai subi un contrôle de police et je en toute politesse et en toute sérénité, je demandais mais pourquoi est-ce que je me fais contrôler ? Et je posais beaucoup de questions en fait. Et quand ils ont vu des livres dans mon sac, parce que j'aime lire simplement, et ils étaient trois, et il y en a un qui disait avec sarcasme, alors comme ça, celui-là il sait lire, il fait des études.
Ah ben ça.
Et il y en a un des trois qui a cherché à apaiser, mais en tout cas celui qui faisait du sarcasme, il était extrêmement méprisant et en fait il cherchait à créer cette atmosphère d'animosité en fait, j'ai envie de dire, de sorte à ce que si jamais je réagis de la mauvaise manière, ça justifierait le fait de me mettre au sol, de me menotter, de m'interpeller. Mais ils ont fini par lâcher l'affaire. Ouais. Et une autre fois, parce que je travaille comme éducateur spécialisé, il y avait une autre fois où deux jeunes filles de 8 ans du foyer où je travaillais comme éducateur, donc moi j'avais prévu une sortie au cinéma avec ces deux jeunes filles. Et c'était deux filles blanches, donc on partait au cinéma, donc deux jeunes filles qui partent au cinéma avec leur éducateur, rien de très bizarre. Et lorsque les policiers nous ont arrêtés, ils ont isolé les deux jeunes filles pour savoir, c'est vraiment ton éducateur, il t'a pas kidnappé, il t'a pas forcé, il t'a pas... Parce qu'en fait, quand je marchais dans la rue pour me diriger au cinéma avec ces deux petites filles de 8 et 9 ans, on se tenait la main en fait. Deux jeunes filles blanches, elles me tenaient la main quoi. Mmh. Et puis ouais, donc on les a isolées pour... À plusieurs reprises, les policiers leur ont posé la question, t'es sûr que c'est vraiment ton éducateur ?
Ouais, c'est le soupçon perpétuel.
Il n'y a pas quelque chose, il ne t'a pas forcé, il ne t'a pas... Enfin, ça m'a fait un peu bizarre quand même. Enfin,
C'est la société qui est ainsi devenue. Merci beaucoup. Quel était ton prénom ? Enfin, votre
prénom. Omowale.
Et merci beaucoup, puisque ça me permet d'introduire la réaction que je voulais faire juste avant le témoignage. En fait... Maintenant, ce qu'on dit aux jeunes, moi, je leur donne... parce qu'on parle de survie, donc il faut bien qu'il y ait un kit de survie. Et en fait, le kit de survie, c'est 5 étapes. La première, déjà, on vérifie que l'agent en face de nous a bien un ROI apparent. Oui. Et on essaye de retenir le ROI au maximum, on n'oublie pas. Deuxième point, on reste le plus cordial possible. Parce que de toute façon, on a tort. Donc, en partant de ce principe-là où on a tort, maintenant, c'est comment on fait en sorte que l'autre, en fait, que le tort de l'autre soit justifié. Donc, on en est là. Donc, comment on fait? On reste le plus cordial possible. On répond aux questions les plus simples. Et nous, on pose la question, je suis contrôlé pour quel motif? Il faut que l'expression du contrôle, le motif du contrôle, vous le soit exprimé explicitement. Donc, en fait, tant que vous continuez à poser cette question, cordialement, le plus calme possible, le plus souriant possible. C'est vraiment ces étapes-là. La posture, OK. Ensuite, la connaissance de son droit. Vous fouillez mon sac, pourquoi? Pour quel motif vous fouillez mon sac? Ça vaut aussi pour le coffre de voiture, parce qu'on peut nous arrêter pour un contrôle anodin en routier. Mais tant qu'il n'y a pas un flagrant délit de quelque chose, en fait, c'est la preuve immédiate qui doit justifier la fouille du véhicule. Donc, il ne se lève pas un matin pour décider d'ouvrir votre coffre. Oui.
Justement, quand j'avais posé ces questions-là, il y avait un des policiers qui avait dit non, c'est...
On fait ce qu'on veut, c'est ce qu'il dit.
Non, c'est pas ça. Ouais. Je ne sais plus s'il avait dit c'est un décret ou une recommandation du procureur
Merci,
de la République. Quand il a dit ça, je lui ai dit, monsieur l'agent, moi, je veux bien lire... Voilà, exactement.
Voilà,
exactement. Je veux bien lire ce décret, si vous pouvez me le montrer, et que je puisse le lire simplement.
Exactement. C'est l'autre partie du kit de survie. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les formations jusqu'au bout des ongles. L'autre point du kit de survie, c'est dans quel contexte et dans quel lieu on est contrôlé. Donc, il peut y avoir des mobilisations, des manifestations qui sont autorisées ou non, parce qu'aujourd'hui, on est tellement en état de fascisation que même les manifestations sont muselées. Donc, il y a la justification de l'espace, etc. Donc, il y a énormément d'enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces enjeux-là? Eh bien, c'est très simple. On respire. Je pense que ça, la posture, c'est le premier truc qui fait partie du kit de survie. On respire. Ensuite, maintenant, le cadre de loi, le droit. En fait, le droit bouge avec le cadre législatif. Et en fait, on a aussi une jeunesse qui est abstentionniste et qui ne vote plus. Et en fait, le fait de rappeler que les lois qui s'appliquent sur nous, donc la loi séparatisme, sécurité globale, qui permettent de renforcer les dispositifs d'armement de la police municipale, qui permettent de renforcer les dispositifs légaux des déférés immédiats et les mises en dépôt de la jeunesse, tout cela vient d'un cadre législatif qui évolue en fonction des représentants à qui on laisse à l'Assemblée nationale. Et donc, si on a une jeunesse qui se politise, une jeunesse qui prend sa carte de vote, une jeunesse qui vote, eh bien, forcément, les sièges éjectables, ça va être comme ici, on va leur dire « Quittez-la, maintenant, on va mettre des gens qui nous ressemblent, qui vont parler pour les premiers concernés. » Et donc là, on va avoir un mouvement du cadre législatif et donc du cadre de loi. Et donc, on va pouvoir faire ou défaire certaines lois, comme sécurité globale et renforcement de l'armement de la police municipale, ou encore la loi qui va arriver maintenant, parce qu'après séparatisme, on a droit à l'entrisme. Donc, on va avoir des lois maintenant sur l'entrisme. Et donc, on va nous éviter, nous sanctionner de récupérer certains espaces, parce qu'en fait, on est illégitime. Et l'espace politique qui s'applique sur nous, on est légitime de le récupérer et d'y être positionné. Et c'est en fait la première chose. Comment on donne le kit de survie à la jeunesse et comment on fait en sorte qu'elle se politise pour que, en fait, ce qui nous tape sur la tête, eh bien, on puisse le défaire par même cette jeunesse. Pourquoi la jeunesse ne reprendrait pas l'Assemblée nationale, tout simplement.
Et au milieu de tout ça, tu rajoutes la loi contre la loi immigration.
La circulaire Retailleau.
21 versions, c'est quand même la loi immigration, c'est le truc de dingue. 21 versions en même pas 20 ans, quoi.
Et je précise, la circulaire Retailleau, je vous invite aussi à aller voir, puisqu'elle annule en fait la circulaire Valls, notamment vis-à-vis du droit des étrangers et de la circulation. Aujourd'hui, il y a aussi un fichage qui est fait des personnes étrangères dès lors où elles sont contrôlées.
Donc, en tant que président d'association, je pense que je dois avoir plein de fiches entre l'entrisme, le séparatisme et un certain nombre de choses. Je pense qu'il doit y avoir un beau dossier sur moi.
Exactement.
Donc prenez les espaces et puis si une jeunesse qui peut reprendre l'Assemblée et récupérer mon dossier, c'est bien. Voilà.
Je pense qu'on peut les applaudir.
Ouais.
Est-ce que certains d'entre vous dans le public ont des choses à exprimer par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, moi, je m'appelle Prune, je suis stagiaire au GAMS avec Alissata, mais je suis aussi en première année à Sciences Po. Donc, quand on parle de jeunesse aux urnes, etc., évidemment que ça me parle. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça, parce que même nous, bon, Sciences Po, on ne peut pas dire que ce soit très inclusif. Bon, ça l'est de plus en plus, heureusement, même si ça tend à ne plus l'être si bien que ça. Mais déjà, il y a une histoire qu'on fait un peu comprendre. Ben, même moi, je ne suis pas parisienne. Je viens du fin fond de l'Aveyron, sud de la France. Il faut qu'il y ait des quotas de lycées qui ne sont pas Janson de Sailly, Henri IV, etc. On se pose toujours la question de est-ce qu'on est là parce qu'on a un bon dossier ou est-ce qu'on est là parce qu'on est dans un lycée perdu au fin fond de la France. Et voilà. Ça marche pareil pour les CPE, les CEP, etc. Enfin, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur déjà. Et puis ensuite, on est face à des problématiques au niveau du vote qui font que, oui, il faudrait que la jeunesse aille plus voter parce qu'on voit bien qu'elle a des revendications. Mais aujourd'hui, ces revendications, on les délégitimise complètement. Il suffit de voir, par exemple, nous, à Sciences Po, le meilleur exemple, c'est toutes les revendications qu'il peut y avoir au sujet de la Palestine. Comment les médias le prennent et réagissent, alors que par exemple, si on comparait à ce qui a pu se passer en mai 68, ça n'a aucun rapport. Enfin, on est vraiment loin, on n'est pas sur de la violence, on est voilà. Et pourtant, c'est vraiment diabolisé, etc. Donc aussi, le problème avec, moi je trouve qu'on a avec la jeunesse, c'est que nous, on a un espace à prendre, on a envie de faire des choses, mais d'un côté, on nous met des barrières, on nous met des freins complètement qui nous font passer pour de la radicalisation, alors que ça n'en est clairement pas et c'est une question d'humanité, je pense. Et je pense que c'est compliqué de prendre cet espace. Et puis, il y a un vrai enjeu sur le taux d'abstention chez les jeunes qui ne cesse d'augmenter et qui vaut pour les banlieues. Mais pour moi, je grandis en milieu rural avec des gens autour de moi qui ne font que me dire que, de toute façon, ce qui se passe à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'ils en ont à faire ? C'est loin. Pourquoi on irait voter ? On s'en fiche. Qui ne savent même pas nommer, je pense, un ministre dans tout le gouvernement, ou alors si, parce qu'on l'a vu trois fois à la télé. Mais voilà, et qui vont voter, par exemple, Jean Lassalle, parce qu'au moins il est du pays. Donc il y a des vrais enjeux sur la question de l'éducation au vote, etc., qui sont aussi prenants, je pense, en banlieue, et qui posent la question de cette formation-là, de qui peut faire cette formation-là, de comment la faire et de comment faire en sorte que de rattacher cette jeunesse à la politique, alors que la politique en est complètement détachée au final, parce que qui nous écoute vraiment ? Pas grand monde, ou alors ils nous écoutent quand ça les arrange, c'est-à-dire en meeting. Parce qu'ils cherchent des voix, mais au final, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, il suffit de voir là, les coupes budgétaires qu'il existe, par exemple, dans l'enseignement supérieur actuellement. C'est très vite passé sous le tapis. L'enseignement public est clairement en danger, alors que c'est quelque chose de très précieux en France, parce qu'on l'a dit, la connaissance, c'est la clé pour tout. Et si aujourd'hui, on ne donne plus les moyens aux facs de donner une bonne formation et de donner accès à un maximum de gens à cette éducation-là, on en fera une société qui sera beaucoup plus malléable, beaucoup plus manipulable, potentiellement du coup plus facile à gouverner, mais qui du coup en perdra toute sa saveur et en perdra toutes ses causes.
Bien sûr. Wow. Bravo.
Bravo.
Je vais me permettre de répondre pour le coup sur ce sujet de l'éducation, à part s'il y a d'autres interventions.
Moi, je veux bien après sur le volet politique.
Ça marche. Alors pour le coup, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure puisque je suis arrivée d'emblée pour répondre à la question d'Ami. Donc moi, je suis Magda Jouigny, je suis maman de 5 enfants. J'habite en Seine-Saint-Denis, je viens précisément de la ville de Stein. Je suis native de Saint-Denis et je vis sur la ville de Stein. Je suis présidente et fondatrice de l'association Puissance des Liens qui œuvre en fait concernant toutes les luttes et contre les discriminations. Et Dieu sait qu'on en a dans nos quartiers populaires. Et l'éducation, pour te répondre, pour le coup, plus clairement, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis parent d'élèves engagés, au sein des écoles, collèges et lycées de mes enfants notamment, mais pas que, puisque j'ai fait partie, du comité de pilotage qui avait lancé le plan d'urgence 93 pour rattraper, justement, la différence qu'il y avait en termes de moyens, en termes donc, de moyens humains, de moyens de professeurs, parce que ça aussi, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Tu parlais de la jeunesse, comment est-ce qu'on prépare nos enfants lorsque vous n'avez pas d'enseignants tout simplement en face. Comment tu veux en fait déjà pouvoir en fait former une jeunesse avec une éducation effectivement qui donne pas les moyens à ces jeunes, notamment des quartiers populaires et en Seine-Saint-Denis particulièrement plus qu'ailleurs, parce qu'il y a des rapports parlementaires justement, qui en parle très clairement et qui pose clairement la rupture d'égalité qu'on a sur notre territoire. On perd un an en termes d'éducation, donc comparé à d'autres territoires, ce qui est énorme. Donc quand on voit qu'aujourd'hui, les voies professionnelles sont encore une fois des voies subies, encore aujourd'hui, même s'il y a une évolution, puisqu'il y a des associations terrain qui travaillent sur ces sujets-là, comment est-ce qu'en fait, en réalité, on va chercher ces jeunes, comment est-ce qu'on leur parle, comment est-ce que finalement, ils s'émancipent par l'école, par l'éducation, parce qu'aujourd'hui, l'école est encore reproductrice de ces fameuses inégalités, qu'on le veuille ou non. Donc, contente de savoir qu'effectivement, il y a encore, et heureusement, puisque de plus en plus de jeunes qui ont accès par le biais donc, voilà, de réseaux et autres aux grandes écoles, il en faut. Mais que fait-on pour les autres, en fait, réellement? Quelle est la réussite? Ma réussite n'est pas forcément la vôtre, et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on apprend à nos jeunes, effectivement, dès le départ, à tout simplement avoir une véritable égalité des chances, donc de suivre, effectivement, une scolarité parfaite, bon, même si la perfection n'existe pas, mais en tous les cas, donner beaucoup plus de moyens. Et ensuite, comment est-ce que ces enfants, ces jeunes, sont accompagnés réellement pour s'émanciper et choisir en fait leur orientation. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, il manque, tu disais Nastéo tout à l'heure, il fallait donc les former, ces jeunes, leur donner effectivement un kit de survie et autres, mais c'est comment est-ce qu'on les accompagne tout au long en fait de leur vie. Et là, aujourd'hui, on parle de cette jeunesse, notamment aujourd'hui, donc de la vingtaine, mais on en parle des plus jeunes parce que ça commence de plus en plus tôt, en fait. Et ça aussi, on ne parle pas assez à nos jeunes. J'ai l'impression qu'on a un peu oublié finalement ces jeunes, notamment en primaire et même parfois en maternelle, comment est-ce qu'en fait on revoit l'éducation, la transmission. Il y a beaucoup de choses en fait finalement qu'il faut revoir, qu'il faudrait que justement on puisse encore mieux accompagner. Et ensuite, comment effectivement les intéresser à la vie politique, parce que ça passe par là, c'est aussi comment les intégrer, leur laisser une place au quotidien. Donc, et ces jeunes, ils ont besoin de modèles. Et pour avoir des modèles, il faut des personnes qui réussissent, des personnes qui leur parlent. Donc voilà, et ça aussi, c'est important. Et ensuite, après avoir fait tout ça, effectivement, s'engager en politique. Ça, c'est essentiel de voter. Mais si on n'explique pas, il n'y a pas une éducation à la citoyenneté dès le départ, là, c'est très problématique parce qu'on perd énormément de jeunes dans nos quartiers, des familles qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants parce que tout simplement ne maîtrisent pas la langue, ne maîtrisent pas les notions, les codes. Vous avez des enfants parfois qui arrivent à passer cet obstacle et aller de l'autre côté du périph, mais quand ils ne maîtrisent pas les codes, il y en a certains qui baissent les bras très vite. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Donc, c'est comment est-ce qu'on les accompagne, finalement, et on leur donne les outils du début de leur scolarité jusqu'à la fin de leur scolarité pour qu'on puisse ensuite faire un peu comme ce que tu disais, Yacine, avec la relève, transmettre le flambeau et aller chercher, en fait, ces jeunes et être, en fait, un réel lien, en fait, entre cette jeunesse et les personnes comme nous, les mamans des quartiers populaires, en l'occurrence, ou en tout cas les mamans qui essayent de continuer à aller chercher ces enfants pour qu'ils puissent s'émanciper, prendre en fait tout simplement leur place au sein de la société. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, tisser des liens, c'est revenir en fait en réalité à une société plus ouverte, inclusive. On peut parler du handicap, mais je serais trop longue. Le handicap aussi, comment est-ce qu'il est traité au sein de l'école? Quand vous voyez qu'au sein des écoles, finalement, le handicap, c'est quelque chose aujourd'hui encore qui, malheureusement, est laissé de côté. Comment est-ce qu'on parle? Et après, je te laisserai, Issata, parce qu'effectivement, former les jeunes filles sur leur corps, l'éducation à la sexualité, ça aussi, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on éduque nos jeunes, en fait, à tous ces sujets-là?
Pourriez-vous les répondre et après je me présenterai.
On arrive à bientôt à la fin.
Désolé.
Il y a un dernier plateau qui doit à panel, donc je vous en prie. Ça fait déjà une heure que nous sommes là. Il est déjà 17h.
Je vais être rapide
alors. Alors bonjour, moi je m'appelle Ouri Diao. Je suis ici sous la casquette de collaboratrice de cabinet de la mairie de Roissy-en-Brie. Je suis en charge de ce qu'on appelle la politique de la ville. Je vous la fais courte, c'est réduire les inégalités sur un territoire. Et je suis également la référente des acteurs économiques. Donc voilà, social et puis l'économie. Je voulais déjà remercier Yacine d'être là. Pourquoi je remercie Yacine? C'est un jeune de chez moi. Yacine, je les ai contactés, je crois, à 11h. J'ai dit, tiens, je suis à un événement là, qui se déroule à Villepinte. Est-ce que quelqu'un peut passer? Donc Bachir, que je contacte, me dit « Ouri, je suis à Béziers, je t'envoie quelqu'un ». 1h30 après, Yacine est là. Bravo. Alors ça, bravo. Franchement, ouais. Chapeau. Chapeau. Je dis ça pourquoi ? Parce que Prune, tu viens de nous interpeller sur le politique, comment nous intégrer, etc. Elle a dit que les jeunes doivent se mettre à voter. Moi, je suis très terrain. Je vais être très terre à terre dans ce que je vous dis, parce que quand on fait de la politique de la ville, vous êtes quelqu'un de terrain. Mmh. Vous connaissez vos jeunes, vous connaissez vos familles, vos problématiques. Pour appeler un jeune à voter aujourd'hui, il faut aller le voir depuis tout petit déjà.
Ah, mais clairement, ça ne marche
tout petit
plus.
Déjà.
Ah, bah oui.
Et moi, je dis à la jeunesse aujourd'hui, je ne vous appelle pas à aller voter. Mettez-vous sur les listes électorales. Exactement. Et devenez des élus de la République. C'est de l'intérieur qu'on change les choses. Un vote pour un vote, laissez tomber. Moi qui vous dis ça, j'ai été élue de la République. J'ai été chercher les voix, notamment des gens de la minorité, bien évidemment. Le club de foot, bien évidemment. Vous allez d'abord demander à qui ? Aux gens qui vous ressemblent. Et ils vont voter pour vous. Néanmoins, j'étais sur la liste. Donc, quand je me suis engagée en politique, j'ai pris des engagements vis-à-vis de ma jeunesse à l'époque. Je leur ai dit, tu votes pour nous, notre projet est de développer les infrastructures sportives. Nous sommes une ville de foot. On avait promis un terrain synthétique à 1,4 million. Qu'est-ce que je disais à mes jeunes et aux maires, donc aux prétendants maires de l'époque ? Je lui ai dit, moi, je te préviens, je raserai jamais les murs de ma ville.
Exactement.
Cette promesse, on va la tenir. Si on ne la tient pas, vous, jeunes qui êtes en face de moi, dégagez-nous à coups de pied. Parce qu'il y en a marre.
Exactement.
D'être un outil qu'on utilise.
Variable d'ajustement.
D'accord ? Soyez vous le bricoleur qui utilisait cette perceuse.
Exactement.
Et non pas la perceuse.
Mmh. Bravo.
C'est exactement ce que je dis. C'est qui s'est remplacé à l'Assemblée par la
Et il n'y a pas d'âge pour ça.
Exactement.
La valeur n'attend point le nombre des années.
C'est tout.
Yacine, il est là, il a 23 ans aujourd'hui. J'ai connu les jeunes de la relève. Ils avaient à peu près 13 ans, je crois, en 2014, puisque c'est notre premier mandat. Donc vous avez à peu près 13 ans. Depuis leurs 13 ans, ces gamins, ils sont investis dans la ville de Roissy-en-Brie. Ils ont été consommateurs de toutes nos activités.
Bravo.
Et aujourd'hui, ils sont consommateurs. Ils ont monté une association. Ils en sont président, vice-président, trésorier, etc. Aujourd'hui, ils ont toute une programmation sur notre collectivité. Sur une année, ils vont faire des événements qui vont rassembler à peu près 3 000 personnes.
Bravo.
3 000 personnes. Aujourd'hui, ils répondent aux besoins des jeunes. Quand on dit, oui, le jeune, mais quelle place on fait aux jeunes ? Ils parlent où, le jeune ? On l'écoute où et quand ? Citez-moi une place dédiée aux jeunes. Il n'y en a pas. Il y a des espaces jeunesse avec des PlayStation. Il n'y a pas. On parle de l'école. L'école est malade, on le sait tous.
Elle est morte.
Mais le parent, qu'est-ce qui se passe dans les foyers ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'elle est là, la réalité. Le jeune d'aujourd'hui, il y a le parent qui doit le gérer. Il y a le politique, il y a l'école, il y a tout le pan social. La police, j'en parle même pas. Ça me fait mal au ventre. J'ose même pas vous raconter, étant donné que je suis cabinet du maire, j'ose même pas vous raconter les situations qui nous sont remontées. Sachez juste une chose, hein. Nous sommes juste en train de nous américaniser.
Exactement.
Quand je dis ça, pensez
Ubérisé.
À tout ce qu'il y a de pire aux États-Unis.
Exactement.
Dans 3 matins, on l'a en France.
Bravo.
Oui, aujourd'hui, avoir un jeune garçon noir ou métisse,
c'est une angoisse.
Vous avez la boule au ventre. Premier contrôle de mon fils, il a 12 ans. Il a 12 ans, il sort du stade de foot. Par la police municipale de ma collectivité. Chance ! Roissy-en-Brie, tout le monde le connaît. Et c'est quelqu'un qui vient, qui dit, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est le fils à Bige. Mais si c'est pas le fils à Bige, on fait comment ? Un gamin de 12 ans, on fait comment ? Donc aujourd'hui, je veux bien, hein. Il faut dire ceci, il faut dire cela, il faut faire ça. Mais dans les faits, mon gamin de 12 ans, sincèrement, tu penses qu'il va dire à la police, oui, quel est le motif de mon arrestation ?
Non, pas du
tout. Mais le gamin, il est en transe.
C'est pas du tout la réponse.
C'est pas
ça
que je dis.
Ah oui.
C'est-à-dire que un gamin, parce que ça commence, voilà, ça commence très très jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le môme, même à 8 ans, il peut être contrôlé.
Ah mais clairement.
Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gosse ?
Je l'ai vécu avec mon petit frère qui baladait mon fils de 5 ans. Donc, et mon fils de 5 ans à qui un gros policier se met devant lui.
Voilà. Il peut faire pipi sur lui.
Bah oui. Ah non, mais complètement.
Donc voilà ce que je voulais dire, vu que le temps est court, par rapport à la politique. Engagez-vous. Ça peut commencer par des associations, des actions de terrain, mais engagez-vous. N'attendez pas que les gens fassent pour vous. On ne fera pas pour vous.
Exactement.
Vous devez faire pour vous. Nous ne ferons pas pour vous. Parce qu'on est déconnectés. Il y a une génération entre vous et nous. Nous, on suppute. À la question comment va la jeunesse, on vous a dit elle va bien. Non, mais c'est pas méchant, c'est notre vision, c'est notre perception. Donc c'est à vous de vous lever et de faire pour vous. Nous, on vient en appui, on vient vous transmettre les outils qu'on a. Mais levez-vous et faites pour vous.
Bravo.
On peut applaudir ça. Je vais me présenter rapidement et, parce qu'on doit conclure et je vais essayer de faire du lien par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois qu'en me présentant, ça va permettre peut-être d'apporter des éclairages. Donc, je suis Alissata Ndiaye, ancienne présidente d'une fédération nationale qui lutte contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés. Donc, aujourd'hui, je suis directrice régionale Paris-Île-de-France. Et à travers tout ce que j'entends, je vais vous expliquer rapidement mon parcours qui va apporter en tout cas des réponses à ce qui vient d'être dit par mes consoeurs. Je suis issue d'une fratrie de 7 enfants. Deux de mes sœurs sont ici. Je ne vais pas les nommer. Pour certaines, elles se reconnaîtront. Je ne viens pas du 93. J'ai grandi dans le 94 à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, il y a deux gares. Il y a Val-de-Fontenay, quartier très populaire, et Fontenay-sous-Bois, quartier un peu plus bobo. On a eu de la chance, on était du bon côté, j'ai envie de dire, côté Fontenay-sous-Bois. J'ai grandi dans un milieu où il y avait une mixité sociale très importante et pas dans une cité ghettoisée avec une population dominante Afrique subsaharienne ou maghrébine ou asiatique ou que sais-je. Cette ville de Fontenay-sous-Bois, je suis apolitique, mais quand même, en grandissant, j'ai pu comprendre quand même les courants politiques sont des dominateurs assez révélateurs, et donc communistes. Et cette ville, elle a toujours porté la jeunesse au plus haut. Toujours, toujours, toujours. Et avec mes sœurs, on a bénéficié d'un espace de parole culturelle, de l'ouverture associatif, un tissu associatif extrêmement important. Et c'est peut-être pas anodin pourquoi on est là, en fait. Et si je vous dis mon parcours, j'ai commencé à peu près vers 14-15 ans avec une grosse fédération qui s'appelait à l'époque donc des Pionniers de France, qui m'a amenée autour de l'éducation populaire, de l'animation pure, de quartier, etc. Tout doucement, auprès de la jeunesse, proposer des formations, BAFA, animation, etc. Je continue mes études et parallèlement à cela, je continue toujours mon engagement dans les quartiers. Je deviens travailleur social. À l'issue, je fais mes gammes. Donc, ça fait plus de 30 ans que je suis travailleur social. Je suis passée du travailleur social au chef de service éducatif. Et parallèlement à ça, avec cette empreinte et de militantisme, et pas forcément féministe, mais qu'est-ce qu'on fait de nous? Comment on utilise l'espace? Et quels sont nos droits et nos devoirs? Et tout cela, ça a été transmis. Et ça s'est transmis au sein de ma famille. Donc les unes et les autres, on s'en est saisi et on s'en est servi. Aujourd'hui, effectivement, je suis présente devant vous, je suis directrice régionale d'une fédération, et j'ai été nommée il y a 2 ans en tant qu'officier de la Légion d'honneur. Donc aussi incroyable. Merci. Aussi incroyable que cela peut paraître, à aucun moment, je me suis dit que une première ministre pouvait me nommer à ce statut de chevalier de la Légion d'honneur. Pour nous, c'est, comme on dirait mon beau-frère, c'est hors sol. On est dans une autre catégorie. C'était absolument pas mes prétentions. Et pourtant, quand je vois dans le journal officiel pourquoi j'ai été nommée, c'est pour eux. Donc, ils prenaient mes 25 années d'engagement au service des femmes et des filles et des enfants. Bravo. Tout ça pour dire quoi? Au-delà des titres prestigieux qu'on peut avoir, des postes qui peuvent être un peu clinquants à l'oreille. J'ai toujours, et je le dis toujours, et la preuve étant que ben, voilà, j'ai des bénévoles, j'ai des stagiaires, le poste ne définit pas qui vous êtes. C'est vous qui définissez le poste. Donc, il y a effectivement des gens pas forcément mal intentionnés, qui ont envie de carrière et qui ont une ambition, etc. Mais si vous mettez du sens à ce que vous faites, si vous cherchez vos droits, si vous connaissez vos droits, et si vous mettez du sens dans ce que vous faites, vous irez là où vous serez. Et plus tard, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, bah vous vous retrouvez autour d'un panel avec de merveilleuses femmes et d'hommes pour défendre les causes. Et c'est-à-dire, oui, on a la peau qu'on a. On a le genre qu'on a. On peut être dans un quartier urbain, comme on peut être dans un quartier rural, mais in fine, on est tous dans la même galère. À un moment donné, on est tous dans la même galère. Et moi, aujourd'hui, bah, mon combat, je l'ai choisi, c'est de lutter contre l'excision. Car encore, aujourd'hui, en 2025, des filles risquent d'être excisées. On peut se dire que c'est de l'autre côté du territoire, mais non. Parce que sur votre territoire, là où je me trouve, dans le 93, il y a une prévalence de 8% de petites filles qui risquent d'être excisées. En brisant le silence, en brisant le tabou, en se disant « il se passe des choses, il y a des risques, levons le tabou, parlons-en, afin d'éradiquer ce problème qui est plus que millénaire. » Je vous remercie de votre attention.
Bravo.
Merci. On arrive dans les dernières minutes pour parentalité. Et on va enchaîner avec la récré junior. Et la récré junior, c'est quoi le concept? C'est des jeunes qui prennent la parole pour eux, par eux, eux-mêmes. Donc les jeunes vont aussi s'exprimer et d'autres jeunes vont arriver. Mais entre les deux, il y aura une toute petite pause musicale avec une surprise qui vous attendra à l'avant des espaces V. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour avec cette surprise et revenir gagner la salle en entrant par là et en faisant un maximum de bruit et de faire les honneurs pour la jeunesse de Villepinte, la jeunesse qui brille et la jeunesse d'ailleurs, partout en Île-de-France. Merci au panel, merci les filles. On peut les applaudir fort. Alors, Nastéo, le mot de la fin. Ensuite, Houri, j'aimerais bien juste que tu prennes 2 minutes pour parler aussi de l'importance pour nous, en tant que femmes, en tant que mères, en tant que parents, de se structurer, de croire en nos projets, qu'ils soient dans la vie salariale comme entrepreneuriale, et de présenter aussi ce que tu fais, pour que certaines puissent engager la communication avec toi après. Et puis, pour finir ce parentalité, j'aimerais quand même donner la parole justement à Massar, qui a le club Massai Gym ici sur Villepinte, parce que pour moi c'est très important, la place aussi du sport et sport de combat dans l'éducation, les bienfaits, tout ce que ça apporte. Et juste après ça, on rend l'antenne et on laissera cette salle à la jeunesse pour s'exprimer, ce qui ne veut pas dire que nous les adultes on part, mais on va les écouter eux s'exprimer. Merci.
Yes. Merci Ami, je ne serai pas longue pour cette conclusion parce que c'est juste vous dire merci. Et parce que Ami, c'est toi et que j'ai beaucoup d'amour pour toi, je suis aussi venue avec un cadeau pour cette jeunesse que tu portes au quotidien. Donc avec l'association Carré Citoyen, nous offrons aujourd'hui 10 places de stage de 3e et de 2e. Donc dans le cadre de cet événement pour Ami, dans lequel il y a 2 volets. Donc les 10 places de stage sont à répartir sur 2 thématiques. La première, c'est la gestion associative, pour qu'ils viennent dans le bureau avec nous. Donc il y en aura 5 en gestion associative qui vont répondre à des appels à projets, soit de politique de la ville, soit de fondation privée, avec des écritures de notes d'intention. Donc dès la seconde, pour qu'ils puissent apprendre à créer des associations. Et les 5 autres vont travailler sur du développement informatique et donc vont créer leur propre outil de communication, donc que ce soit un format podcast ou autre. Donc le matériel sera aussi mis à disposition parce qu'on a une super formatrice qui va prendre les espaces de Carré Citoyen. Et parce qu'en fait, on va relier
parce que les secondes, c'est 2 semaines et les troisièmes, c'est de la découverte d'une semaine. Et en fait, on va relier les deux parce qu'on va mélanger l'administratif et la com de telle sorte à ce qu'on crée cette synergie entre les deux. Donc, c'était simplement ma conclusion, c'était de te dire merci, Ami, et bienvenue à tout le monde. Les coordonnées sont sur les chaises. Vous trouverez les mails, les informations de l'asso. Vous pouvez nous contacter sur Insta ou par mail. Par contre, point important, il n'y a pas de prérequis à un super CV parce que l'objectif, c'est que vous ressortiez à l'issue du stage avec votre CV de construit. Donc, écrivez-nous comme vous êtes pour ce que vous avez envie et vous transformez le carré comme vous en avez besoin et pas comme je vous l'impose. C'est le plus
merci
important.
Pour voilà. Ce merveilleux merci. Cadeau, Nastéo. Avec le nombre de jeunes qui nous appellent parce qu'ils galèrent à trouver un stage, je t'invite à rester dans la pièce après la surprise, justement à revenir parce que, et de refaire cette proposition aux jeunes quand ils seront tous là, okay. Parce que je pense que c'est très important et en plus il y en a qui doivent valider des stages là avant fin de l'année. Merci Nastéo. Houri et puis ensuite, ensuite Massar. Et en attendant, moi je vous attends juste après le propos de Massar à l'extérieur, devant là où il y a le quart du record. Houri, on t'écoute et on va finir avec Massar.
Bon, pour la présentation, mairie de Roissy-en-Brie, ça c'est fait, on change de casquette. Et là, je prends la casquette entrepreneur et spécialiste en formation pour adultes, notamment pour les femmes qui veulent créer des entreprises mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, au tout début, les balbutiements, je dis parce qu'on est plusieurs dans l'équipe maintenant à former. J'ai Béatrice notamment qui est dans la salle qui m'a rejointe. Et donc, on va de ville en ville former les femmes qui ont cette envie de se créer, mais au-delà de leur dire ben, pour créer ton auto-entrepreneuse, tu passes par là, 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 nous, on rentre dans le fond. On va créer un site internet avec elles, on va créer une plaquette, des logos, leur expliquer. Et aller avec elles jusqu'à essayer de trouver le premier client afin qu'elles aient confiance et qu'elles puissent continuer par elles-mêmes. Voilà.
Bonjour à tous, je me présente, coach Massai, fondateur et responsable du club de boxe local, le Massai Gym Boxing. Je suis dans la boxe depuis une vingtaine d'années et éducateur spécialisé en sport depuis 10 ans. Donc, j'enseigne la boxe comme un complément d'éducation pour les enfants. Ils sont sujets au harcèlement scolaire, à la déscolarisation, à ce genre de choses. Donc, par le biais du sport, on lutte en les responsabilisant, en leur apprenant la boxe, en les faisant devenir coach, formateur et boxeur. Donc, le club est ouvert à tout le monde, à partir de 4 ans, jusqu'à pas d'âge. On est contre l'exclusion. Chez nous, tout le monde est le bienvenu. Aucune discrimination de couleur, d'origine, de race, de religion. Tout le monde est le bienvenu. À travers le sport, on vit des choses, on va dire, uniques. On voyage, on s'amuse, on fait des repas, on s'entraide. Et voilà, j'essaie d'apporter ce petit complément d'éducation parce qu'aujourd'hui, c'est les valeurs, c'est ce qui nous manque. La confiance, c'est ce qui nous manque. Et beaucoup de gens viennent au sport par rapport à tout ça. Je vous remercie de votre attention.
Je crois que je devrais m'inscrire à la boxe parce que cardio, c'est pas ça, hein. Merci. C'est ainsi que se clôture Parentalité, une édition spéciale pour le salon SoFamily. Merci à vous d'avoir participé. Merci au panel et merci à vous.